19h, vous écoutez France Inter. Tout de suite le journal avec Anaïs Feugat, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le sauf qui peut en Afghanistan. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter immédiatement le pays. Herat et Kandahar, les 3e et 2e villes afghanes, viennent de tomber aujourd'hui aux mains des talibans. Le bassin méditerranéen abruti de chaleur en Algérie, en Tunisie, en Sicile, on flirte avec les 50 degrés. À Syracuse, sans doute le record européen absolu. Dans le sud de la France, les ouvriers sur les chantiers s'apprêtent à vivre quelques jours d'enfer. Nous serons à Nîmes. En Martinique, la visite de crise. Ce soir, des ministres au CHU de Fort-de-France, débordés par les patients malades du Covid. Nous y serons. La vaccination frémit légèrement aux Antilles, plus 18% d'injections en une semaine. La peur des motards dans la rue serait-elle plus forte que celle du gendarme européen? Le gouvernement fait volte-face sur le contrôle technique des deux roues. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas le moment d'embêter les Français, se justifie l'Élysée. Et puis des jetons de crypto-monnaie dans le portefeuille de Lionel Messi, des fan tokens du PSG, on vous explique dans ce journal. Au téléphone sonne ce soir. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Un espion dans notre poche, notre téléphone portable.
La question se pose à nouveau, en tout cas avec la polémique mondiale, sur le nouveau système de filtrage installé par Apple sur ses iPhones. Les opposants parlent ni plus ni moins de logiciels espions du gouvernement. Avec nos portables, transportons-nous effectivement un mouchard dans notre poche. Vos témoignages, vos questions, théoriques ou pratiques, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
À tout à l'heure Marion, 19h20.
France Inter.
Le début de la fin pour le régime afghan. Ce jeudi 12 août marque sans doute la dernière étape avant la prise de Kaboul par les talibans. Deux des principales villes du pays viennent de tomber, Kandahar et Herat. C'est ce que nous confirme notre correspondante en Afghanistan, Sonia Ghezali.
Les talibans marchent dans le centre-ville de Kandahar, c'est ce que racontent des habitants sur place. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit des Humvees, des tanks de l'armée afghane rouler à toute vitesse en direction de l'aéroport. C'est la fuite en avant des forces de sécurité afghanes que l'on a pu observer au cours de ces dernières semaines dans toutes les capitales provinciales qui sont tombées aux mains des talibans. Elles seraient 12 désormais avec Herat et Kandahar. Kandahar, l'ancienne capitale du régime taliban entre 1996 et 2001, ville stratégique du sud qui ouvre la voie par la route vers Kaboul au nord. Les talibans ont pris le contrôle de la plus grande partie du nord. Si Mazar-e-Sharif, où les combats font rage, tombe à son tour, alors le nord sera totalement aux mains des talibans. Les regards sont rivés sur Herat également, la grande ville de l'ouest, frontalière de l'Iran. L'armée et les combattants volontaires de l'ancien chef de guerre Ismail Khan ont résisté des semaines, mais les talibans ont pris le dessus. À Doha, aujourd'hui, la délégation du gouvernement engagée dans les discussions de paix avec les talibans a proposé un partage du pouvoir aux insurgés. Pourquoi ces derniers accepteraient? Tout le monde se le demande tant ils enchaînent les conquêtes militaires les unes après les autres, se rapprochant inexorablement de Kaboul, la capitale. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Et cet après-midi, les Américains sont incités à prendre les vols commerciaux disponibles pour quitter le pays au plus vite. Lucifer a mis sa menace à exécution. La Sicile grille dans les flammes de l'enfer. L'anticyclone ainsi baptisé fait régner une chaleur épouvantable sur le sud de l'Europe. Il n'y a jamais fait aussi chaud depuis qu'on fait des mesures. Si la valeur est confirmée, presque 50 degrés à Syracuse, pire que les 48 degrés subis à Athènes en 1977. Anthony Nogalo.
C'est une cape de chaleur et d'humidité qui embrasse ces jours l'Italie. Du nord au sud, les températures dépassent 40 degrés. La péninsule est victime, eh bien, de Lucifer. Jamais un anticyclone n'avait aussi bien porté son nom. Il est arrivé du continent africain et menace le pays d'un week-end de la mi-août plus torride encore. Hier déjà, la Sicile enregistrait la plus chaude température jamais atteinte en Europe, 48,8 degrés. Selon les prévisions, l'anticyclone se déplacera. Les températures les plus élevées de ce week-end sont attendues dans le centre et dans le nord du pays. Cette météo favorise en plus les incendies. Il ravage ces jours surtout la Calabre. 59 brasiers brûlent aujourd'hui encore. Le gouverneur réclame l'état d'urgence. 4 personnes sont mortes au total ainsi qu'une en Sicile. Les flammes ravagent aussi l'île, surtout les régions de Palerme et d'Agrigente. Rome, Anthony Nogalo, Faro France Inter.
Les risques d'incendie extrêmes touchent aussi la péninsule ibérique. En Espagne, où on attend 45 degrés, en particulier dans la vallée du Guadalquivir, le camping en forêt a été interdit en Catalogne. Le Portugal tend le dos aussi. Alerte maximale aux incendies dans le pays jusqu'à lundi. Sur les 10 dernières années, l'Espagne a enregistré 2 fois plus de vagues de chaleur que durant chacune des 3 décennies précédentes. En France, 5 départements sont en vigilance orange canicule. La Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et l'Ardèche. Vigilance jaune dans le Gard, 38 degrés attendus demain et beaucoup de souffrance pour ceux qui travaillent. Hervé Salafranque, France Bleu Gard Lozère, s'est rendu sur un chantier près des arènes de Nîmes.
Le thermomètre dépasse allègrement les 35 degrés. Il est presque 15 heures, le moment le plus chaud de l'après-midi, mais aussi heureusement, bientôt la fin de la journée de travail. Et il est temps que ça se termine pour Stéphane, le menuisier.
C'est un peu dur, mais voilà, on essaye de travailler à l'ombre, très tôt le matin, c'est 6 heures du matin jusqu'à 13, 14 heures, 15 heures. Après, c'est insoutenable par rapport à la chaleur.
Même ressenti pour Xavier, le plombier.
En fin de journée, vers 3 heures. Ça commence à, on est un peu fatigué, on a plus de mal à finir la journée.
Pour lutter contre la chaleur, il n'y a pas 1000 recettes.
On s'hydrate, on boit, on s'arrête de temps en temps, et puis on se met à l'ombre, on dépose, voilà, on lève un peu le pied, voilà, on travaille beaucoup le matin, comme ça l'après-midi, c'est plus calme. C'est une habitude, et voilà, moi j'ai la casquette, au moins ça me protège du soleil, donc impeccable.
Protéger du soleil, mettre les casquettes et au bord de l'eau. Du coup, je bois un peu plus que d'habitude et on fait avec.
Et de toute façon, comme le dit Ali...
C'est difficile, mais on fait avec, comme d'hab. On est obligé de travailler, c'est comme ça.
En Sibérie, pas de travail demain. Jour chômé dans 11 districts. Les autorités ont été obligées de décréter un jour férié à cause de la fumée provoquée par les incendies. Les incendies en Sibérie auraient ravagé plusieurs centaines de millions d'hectares, ce qui en ferait l'incendie le plus vaste sur la planète. La NASA a calculé que la fumée a traversé 3000 km pour atteindre le pôle Nord, une première dans l'histoire. France Inter, il est 19h06, renfort de soignants, confinement strict, l'exécutif est au chevet de la crise sanitaire dramatique que traversent les Antilles. Les ministres des Outre-mer et de la Santé entament dans quelques instants une visite au CHU de Fort-de-France en Martinique, visite prévue d'ici une demi-heure maintenant. Un peu avant cette visite, près de 200 soignants ont manifesté devant l'établissement contre le manque de moyens et l'obligation vaccinale des soignants dans un territoire où moins d'un habitant sur quatre a reçu une injection. Le reportage de notre envoyée spéciale, Faustine Calmel.
Des pancartes en créole, nous pas cobayes, ont été dressées à l'entrée du CHU.
Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner.
Ça laisse à réfléchir. Notre liberté, elle est où ? Le peuple ne peut pas accepter qu'on lui coupe une liberté.
Alex travaille ici, mais refuse de se faire vacciner et il ira au bout.
Vu mon âge, j'ai les 60 ans, je préfère qu'on me licencie. En réfléchissant bien, c'est la pression qu'ils sont en train de mettre sur l'humain. On aurait dû réfléchir et faire en bloc, quoi.
Un peu plus loin, Evelyne, aide-soignante, elle aussi défend cette liberté.
Moi, j'ai pris le choix de le faire. Parce que j'étais prête à le faire. Ma conscience m'a parlé, je l'ai fait. Je suis contre l'obligation, la pression qu'il y a, parce qu'il y a des collègues qui ont peur.
Une peur alimentée par le scandale du chlordécone, ce pesticide perturbateur endocrinien, utilisé ici après son interdiction en métropole et qui renforce la défiance envers les autorités, leurs messages et leurs informations.
Tout ce qui se passe aux urgences, le nombre de personnes qui décèdent, c'est un fait. Mais nous ne sommes pas aussi catastrophiques comme si c'était un tsunami qui nous tombait dessus.
La réanimation du CHU de Fort de France pourtant est saturée. Une dizaine de patients meurent ici chaque jour du Covid.
Faustine Calmel à Fort-de-France. Le président du conseil exécutif martiniquais réclame un hôpital de campagne militaire sur le modèle de celui qui avait été monté en 8 jours à Mulhouse au début de l'épidémie en France. En attendant, la population est appelée à rester chez elle et à se faire vacciner. Seule solution à moyen et long terme selon le ministre des Outre-mer. Et Véronique Julia, il y a du mieux de ce côté, même si globalement la vaccination se tasse en métropole.
L'engouement vaccinal qui avait suivi l'allocution d'Emmanuel Macron mi-juillet s'amenuise un petit peu. 3,5 millions d'injections ont été réalisées la semaine du 2 août. C'est moins que les 4,3 millions de la semaine d'avant. Mais ça reste un bon rythme, surtout pour un mois d'août. D'autant qu'en tout, la semaine dernière, c'est plus de 2 millions de primo-injections qui ont été faites. Ce qui porte à plus de 45,5 millions le nombre de Français vaccinés d'au moins une dose. À ce train-là, les autorités n'ont pas d'inquiétude sur l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés qu'elles s'étaient fixés pour la fin du mois. Chez les jeunes, ça progresse. Aussi, la moitié des 12-17 ans sont désormais primo-vaccinés. Aux Antilles, on est encore loin des chiffres de la métropole, mais les autorités constatent un frémissement. Elles signalent que lundi et mardi, le nombre de primo-injections a augmenté de 18% par rapport à la semaine précédente. Enfin, le ministère de la Santé a apporté aujourd'hui une précision sur la troisième dose. Seront ciblées en priorité par la campagne de rappel au mois de septembre, environ 5 millions de personnes âgées ou à très haut risque.
En une semaine en France, les soins intensifs ont accueilli 400 nouveaux patients. On le rappelle, il y a 12 fois plus d'entrées en réanimation parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés. Et pourtant, certains se procurent de faux certificats au risque de brouiller les pistes. L'assurance maladie a déposé 16 plaintes. Du côté des policiers, les requêtes adressées à la Sécurité sociale pour des vérifications connaissent une croissance exponentielle. 17 pour tout le mois de juillet, 10 la semaine dernière et 10 chaque jour, lundi et mardi. La police judiciaire de Grenoble, par exemple, enquête sur le cas d'une jeune femme de 30 ans, mise en examen pour faux documents administratifs. Elle travaillait au centre de vaccination installé au parc des Expos. Elle est soupçonnée d'avoir fourni de faux certificats. Véronique Savyuk.
Cette jeune femme faisait partie des personnes employées par une société sous-traitante d'Alpexpo, chargée d'accueillir les candidats à la vaccination à leur arrivée, puis de leur donner à la sortie leur certificat de vaccination. Elle a été surprise en train de délivrer une fausse attestation et interpellée le 21 juillet. En fouillant dans son téléphone portable et en perquisitionnant son domicile, les enquêteurs ont pu établir qu'elle avait fait de fausses attestations à une quinzaine de personnes, pour un montant de 250 euros par certificat pour certaines, ou pour 100 euros quand elle ne servait que d'intermédiaire. Ils ont découvert 720 euros en liquide chez elle, une attestation vierge et une liste de 9 numéros de sécurité sociale. La jeune femme a d'abord nié les faits, puis reconnu qu'elle avait rendu service à des proches, mais gratuitement. Ce qui était peut-être vrai pour les premiers faux certificats hostiles à la vaccination. Elle aurait pu vouloir donner un coup de main à des amis qui ne voulaient pas non plus être vaccinés. Mais ça s'est su, elle a été prise dans une sorte d'engrenage en aidant des moins proches, puis des inconnus contre de l'argent. Il s'agit maintenant de savoir si elle a agi seule et d'identifier tous les bénéficiaires de ces faux papiers.
Véronique Savyuk, France Bleu, Isère. La mesure existe dans de nombreux pays européens depuis une directive européenne de 2014 pour améliorer la sécurité routière, protéger l'environnement, limiter les nuisances sonores. Et pourtant, la France déroge toujours à l'obligation du contrôle technique pour les deux roues auxquelles les fédérations de motards s'opposent bec et ongle. On croyait l'affaire close hier avec la publication du décret d'application. Le contrôle technique était acté pour 2023. Mais machine arrière dans l'après-midi, intervention d'Emmanuel Macron, la mesure est suspendue, ce n'est pas le moment d'embêter les Français, se justifie l'Élysée. Bernard Bourrier, le PDG d'Autovision, le centre de contrôle technique, ne comprend pas cette décision qu'il juge politique et qui contredit un décret du Premier ministre.
Je ne vois pas comment ça ne peut pas venir si la France ne veut pas se mettre en infraction par rapport aux directives européennes. Le contrôle technique des catégories L doit être en place avant le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, la France avait, je pense, obtenu une dérogation pour pouvoir l'appliquer au 1er janvier 2023. C'est remis en cause par nature. Un véhicule, quelle que soit sa nature, se détériore par son usage, quel que soit le véhicule. L'entretien, c'est ce qui permet, sur prescription du constructeur, de conserver l'équilibre de la non-dangerosité du véhicule. Le contrôle technique, c'est de s'assurer que cette non-dangerosité est respectée. Voilà, c'est tout, c'est très simple.
Bernard Bourrier, le patron des centres de contrôle technique avec Béatrice Duguet. Un féminicide en Corse, un homme de 63 ans a tué son épouse d'un coup de fusil. Ça s'est passé à Porto Vecchio cet après-midi. Le couple était marié depuis plus de 30 ans. C'est un voisin qui a découvert le drame après avoir entendu la détonation. Il a fait un tour au Camp des Loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, désormais bien présent dans l'effectif du club qatari. Le PSG qui distille chaque jour une nouvelle dans une campagne de communication bien rodée. Sans rien dévoiler sur le salaire de l'attaquant, le club annonce aujourd'hui qu'une partie de ses revenus lui a été versée en crypto-monnaie, les fan tokens. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Alors on peut dire que c'est un bon coup de pub.
Oui, un bon coup de pub pour ces fan tokens, ces jetons de fans en anglais, dont on ne sait d'ailleurs pas ce qu'il pèse réellement dans la transaction, mais l'occasion du transfert de Lionel Messi permet de les mettre en lumière. Ces fan tokens, ils n'étaient jusque-là connus quasiment que par les fans de grands clubs. Il s'agit d'une monnaie virtuelle qui s'échange comme le Bitcoin sur des plateformes en ligne d'achat et de vente. Le même genre de crypto-monnaie existe aussi à Manchester City, au Barça ou au Milan AC. Ces jetons donnent des droits de vote aux supporters qui en détiennent pour choisir la musique dans le stade, par exemple, pour personnaliser le brassard du capitaine ou pour voter pour le meilleur but de la saison. Mais ils deviennent aussi un véritable objet de spéculation car ils ont un cours qui varie selon l'offre et la demande, donc aussi indirectement selon les performances du club. Ils valaient 2 euros il y a 3 ans lors de leur lancement. Ils en valent aujourd'hui quasiment 50. L'équivalent d'un milliard d'euros, record absolu, s'est échangé en fan token du PSG sur les plateformes avant-hier, jour de l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi à Paris.
Merci. Merci Fabien Cazot, on en apprend des choses. Encore des histoires de gros sous en marge du sport. L'équipementier sportif allemand Adidas va vendre sa filiale Reebok à la société américaine Authentic Brands Group. Une vente pour plus de 2 milliards d'euros. Il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. L'homme le plus rapide d'Europe et des JO de Tokyo, l'Italien Lamon Marcel Jacobs annonce qu'il ne reprendra pas la compétition avant 2022. Le médaillé d'or olympique sur 100 mètres et en relais 4x100, quasi inconnu il y a encore un an, devait courir fin août aux États-Unis dans le cadre de la Ligue de Diamants, puis à Bruxelles et Zurich. À son retour de Tokyo, Jacobs avait repris l'entraînement, mais s'était aussitôt arrêté, selon la presse italienne, à cause de la fatigue et d'un problème au genou. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
10 départements en vigilance orage ce soir.
Oui, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire viennent de sortir de cette vigilance orange, donc il en reste bien 10 du massif, de l'est du massif central vers Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Alors des orages encore parfois forts avec des averses intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. L'activité va se calmer en seconde partie de nuit. L'épisode de forte chaleur, lui, se poursuit dans le sud, pas moins de 20 à 25 degrés attendus cette nuit sur le quart sud-est. On a toujours 5 départements en vigilance orange pour la canicule, la Drôme, l'Ardèche, le Var, les Alpes d'Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.
Et demain, l'après-midi, continue à être très chaud sur ce quart sud-est.
Oui, 34 à 38 degrés jusqu'à 40, même sur la Provence, en basse-vallée du Rhône. Ailleurs, on aura souvent 25 à 32 degrés, c'est plus respirable, 20 à 25 près de la Manche. Et puis côté ciel, beaucoup de bleu demain, alors il faudrait être un peu plus patient de la Manche, près de la Manche et puis vers le sud-ouest et attendre la dissipation de la grisaille matinale, mais le soleil reviendra. On trouvera aussi quelques averses résiduelles sur le centre-est le matin et l'après-midi, juste un petit orage possible sur le massif central et sur les Alpes sous l'effet de la chaleur.
Merci Elodie Calac, Météo France.